affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de Canal Académie. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir la philosophe et historienne Mona Ozouf. Mona Ozouf, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de la Révolution française, vous êtes également lauréate du Grand Prix Gobert de l'Académie française pour l'ensemble de votre œuvre. Et vous venez de publier un ouvrage intitulé Jules Ferry, La liberté et la tradition, dans la collection L'Esprit de la cité, aux éditions Gallimard. Alors, la première image qui vient, lorsque l'on évoque Jules Ferry, c'est évidemment celle du fondateur de l'école gratuite, laïque et obligatoire que nous avons tous en tête depuis que nous sommes allés à la petite école. Et ce qui fait que dans la majorité des cas, dans la majorité des esprits, Jules Ferry incarne une espèce de statut, une figure incontestable d'autorité républicaine qui surplombe les fractures de la société et qui fédère, ou qui fédérerait normalement, au-delà des clivages partisans. Dans la réalité, les choses sont un petit peu différentes et le président François Hollande a pu s'en rendre compte lorsque, en mai 2012, il a placé son mandat sous l'autorité de Jules Ferry et il s'est retrouvé attaqué finalement sur sa gauche et sur sa droite. Alors, vous n'aviez pas encore sorti ce livre, mais s'il avait parlé avec vous, il aurait peut-être su que Jules Ferry était finalement, même de son temps, une des figures les plus détestées du monde politique. Alors, comment expliquer cette détestation?
Oui, c'est probablement l'homme le plus haï de la vie politique française. Si on compare à l'impopularité qui parfois atteint nos hommes politiques d'aujourd'hui, on se rend compte que ce qu'on appelle le Sarkozy bashing ou le Hollande bashing n'est rien du tout à côté de ce qu'a dû subir Jules Ferry, parce qu'après tout, on n'a jamais accusé Nicolas Sarkozy ni François Hollande d'être un traître à la patrie, ni un vendu à l'Allemagne, oui, ni le valet d'un chef d'État étranger, alors que ça a été monnaie courante pour Ferry, qui a été l'objet d'attaques dans la rue parisienne et pour finir d'une tentative d'assassinat qui lui a coûté la vie, du moins à terme, qui l'a considérablement affaibli. Donc c'est vrai que c'est un personnage détesté, à la fois attaqué sur sa droite et sur sa gauche, selon du reste une loi de la politique française qu'il n'a cessé, lui, de dénoncer.
De combattre, oui.
Et qu'on pourrait, je crois, caractériser comme une sorte de maximalisme de la politique qui fait que lorsque l'on n'obtient pas tout pour les Français, on n'obtient rien.
Oui.
Et je crois que ce qui rend le mieux compte de ce qui faisait obstacle à son œuvre au moment où il l'a édifiée, c'est exactement ce que Charles Renouvier, qui est à mes yeux le grand philosophe de la République, disait des Français, en remarquant que pour les Français, tout ce qui n'est pas idéal est misère. Donc c'est la loi du tout ou rien.
Alors revenons peut-être, si vous voulez, sur la figure du valet de Bismarck et sur cette détestation donc d'une bonne partie de la classe politique, pas toute, mais une bonne partie, qui est directement liée en fait à un des axes majeurs de sa politique, qui est la colonisation, et qui lui a valu finalement d'être traité, de traître finalement, parce qu'il aurait négligé la revanche, la fameuse revanche de la guerre de 1870, qui nous a valu de perdre l'Alsace-Moselle. Et finalement, on a dit qu'il avait fait diversion en voulant aller coloniser l'Asie. Alors, est-ce juste ou pas? Était-il un valet de Bismarck?
Non, pas du tout. Il n'était nullement un valet de Bismarck, bien entendu. Et d'ailleurs, Clémenceau le savait très bien.
Oui.
Clémenceau,
son grand ennemi.
Oui, en attaquant Ferry à la tribune, Clémenceau sait très bien qu'il tient là un effet de manche extraordinaire, parce que quelques années quand même seulement, après le traumatisme incroyable de la défaite, dont les Français ne se remettent pas parce qu'ils avaient le sentiment que la France avait tenu tête à l'Europe entière coalisée, et voilà qu'elle est vaincue de façon piteuse, en très peu de temps, par la petite Prusse.
Oui.
Ça a été véritablement
un traumatisme.
Un choc national.
Il faudra attendre 1918 pour s'en remettre, finalement.
Oui, absolument. Un choc national.
Oui.
Et du coup, il est très facile à Clémenceau de plaider que l'aventure coloniale de Ferry est le moyen pour détourner les Français de la récupération des provinces perdues. Mais c'est tout à fait injuste, c'est complètement faux, parce que précisément ce que Ferry a compris, c'est que la revanche est de toute manière, dans les années 1880, 10 ans après, totalement impossible.
Bien entendu.
L'armée a été démantelée, ce n'est pas raisonnable d'envisager une revanche. Et du reste, Ferry n'est pas du tout le seul à le penser. Toute la classe politique, presque, Thiers le pense aussi, De Broglie le pense, tout ce qui reste d'orléanisme dans la vie politique française le pense. Donc il est très loin d'être seul. Mais ça fournit à Clémenceau un thème merveilleux pour une opinion sommaires comme elles le sont toutes.
Oui, comme souvent, effectivement. Oui. Alors, c'est d'autant plus injuste que Ferry, lui-même, est un Lorrain. Donc,
oui,
et qu'il a été député des Vosges.
Bien sûr.
Et que donc, il a pu être, sinon traumatisé, en tout cas, du moins perturbé par la perte.
C'est au contraire un thème qui ne le lâche pas, parce que, par exemple, dans les instructions à sa femme pour sa sépulture, il est bien précisé qu'il doit être enterré près de la ligne bleue des Vosges, ou d'un lieu où on puisse voir la ligne bleue des Vosges, ce qui, par ailleurs, interdirait aujourd'hui la panthéonisation de Ferry.
De Ferry, oui.
Mais c'est quelqu'un qui est, au contraire, très attaché à la patrie Alsace-Lorraine, Alsace-Moselle.
Pensez-vous qu'il pensait, qu'il songeait, lui, à la revanche, justement, à cette fameuse revanche?
D'une manière, à mon sens, très lointaine et très
oblique. Sur le long terme, oui. Donc, un peu à la manière des Prussiens après les défaites contre Napoléon.
Voilà, après Iéna, exactement. Oui. C'est tout à fait ça. C'est ce raisonnement.
Donc, restructurer une nation, se redonner les moyens.
Il faut refaire la France comme grande puissance avant de penser, même de s'autoriser à penser à la revanche. Mais ça n'est nullement une politique de résignation, c'est le contraire.
Donc c'est de la raison.
C'est exactement le contraire. Ferry le dit d'ailleurs, renoncer à l'aventure coloniale alors que toutes les puissances européennes sont occupées à se tailler leur part du gâteau, ce serait au contraire cela pour la France une politique de décadence et de renoncement.
Et il avait raison.
Et là-dessus, à mes yeux, il avait tout à fait raison.
Oui. Alors, il y a cette fameuse phrase sur laquelle il faudrait peut-être faire un sort, vous savez, sur le droit des peuples supérieurs à coloniser les peuples inférieurs pour les civiliser.
Oui, alors là-dessus, il faut bien dire...
Là, il y a peut-être une question de sémantique à régler, non? Parce que les mots ont changé de sens depuis.
Absolument, absolument. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, si nous écoutons de nouveau la controverse Clémenceau-Ferry, celle qui est si importante qu'elle décide de son avenir politique, puisqu'à partir de de l'estocade que lui porte Clémenceau, Ferry n'a plus de rôle politique, sauf tout à fait sur le tard une présidence
1879,
du Sénat consolatrice, disons. Donc, en réalité, pour Ferry, la colonisation est effectivement... c'est la seule chose à faire. C'est la seule possibilité. Mais... il tient un discours qui est aujourd'hui inécoutable, et c'est bien entendu à celui de Clémenceau que nous prêtons une oreille complaisante ou complice. Parce
qu'elle nous parle, et parce que le temps a fait son œuvre,
parce qu'elle vient après
et qu'il y a eu décolonisation.
Oui, parce qu'elle vient après les drames de la décolonisation, et aussi parce que nous avons fréquenté depuis la littérature des ethnologues et des anthropologues qui nous a appris que toutes les cultures se valent d'une certaine manière et ont droit à l'attention et au respect.
Oui. Donc, en matière d'ethnocentrisme européen, il y a également eu la Seconde Guerre mondiale, avec la Shoah, qui nous a quand même appris le danger de parler de race supérieure.
Oui, et de race tout court.
Et de race tout court.
Il y a depuis sur le mot race une touche d'infamie qui n'existait évidemment pas du temps de Ferry. Par ailleurs, quelque chose qu'il faut toujours comprendre chez Ferry, c'est que l'inférieur et le supérieur s'échelonnent sur un axe du progrès. C'est-à-dire que ce qui est inférieur ne l'est pas définitivement. Ferry n'essentialise nullement le peuple inférieur et le peuple supérieur. Le peuple inférieur est destiné à devenir supérieur. Et de même, quand Ferry utilise « peuple barbare », ce qu'on lui a beaucoup reproché, c'est ignorer que « barbare » est un stade intermédiaire depuis Montesquieu. La barbarie est un stade intermédiaire entre la sauvagerie et la civilisation.
Bien sûr, c'est celui qui est étranger à la cité, même depuis l'Empire romain.
Voilà. Et du coup, le barbare est déjà, pour plagier un discours célèbre, le barbare est déjà entré dans l'histoire. Le sauvage ne l'est pas, parce que le sauvage vit en tribu anomique, dispersée, ne se donne pas de chef. Le barbare a un début d'organisation sociale et politique qui fait que la barbarie est un stade. Et c'est déjà un stade, j'ose pas dire civilisé, mais vers.
Oui, vers la civilisation.
Vers la civilisation. Alors, quand on a replacé les mots dans ce contexte, on hésite à dire que ce Ferry, qui est un colonisateur déterminé, orgueilleux de l'être du reste, mais on hésite à le dire colonialiste au sens d'aujourd'hui.
Péjoratif, oui. Mais alors, d'autant plus qu'à l'époque, la colonisation est une aventure.
Bien sûr.
C'est-à-dire, c'est une grande... Et même, encore une fois, aujourd'hui, ça fait bizarre à dire pour les auditeurs de Canal Académie, mais c'est une belle aventure.
C'est une belle aventure. C'est une aventure qui est censée contribuer au rayonnement français.
Ouais.
Et contrairement à ce qu'on dit aussi beaucoup, pour Ferry, la colonisation, elle est essentiellement politique. Le fond de la pensée de Ferry est un fond politique. Si bien que l'argument des intérêts économiques vient toujours au second plan chez Ferry. Alors aujourd'hui, nous avons tendance à croire que parce qu'il vient au second plan chez Ferry, c'est parce que Ferry le cache, le met sous le boisseau. Mais c'est vrai. C'est que les intérêts économiques ne viennent pour Ferry qu'après l'intérêt politique majeur, qui est de redonner à la France son rayonnement.
Alors là encore, nous sommes peut-être victimes d'une historiographie, une historiographie un peu marxisante, matérialiste, des années 60-70,
bah qui rabat
son heure de gloire et qui ramène tout à l'économie.
Qui rabat les passions sur les intérêts, disons,
alors que
les passions comptent.
Alors qu'avant, effectivement, c'est moins qu'on puisse dire, effectivement.
Dans ce cas-là, en particulier, avec l'amertume de la défaite, etc.
Oui. Alors, quelles étaient ses ambitions, et pour l'Empire français, et pour les peuples à coloniser ?
Écoutez, c'est une ambition qui est très exactement parallèle à son ambition pour les petits paysans du Perche ou du Lot-et-Garonne qu'il veut éduquer. Mmh. C'est exactement la même. Pour lui, c'est les deux versants, de son œuvre procèdent de la même foi fondamentale qui est la foi dans l'instruction.
Mmh.
Il s'agit justement de faire franchir à la fois aux petits paysans du Lot-et-Garonne et aux petits Algériens, aux petits Kabyles, il s'agit de leur faire franchir les étapes qui mènent les peuples vers la civilisation, de l'inférieur au supérieur, si on veut dire, mais enfin, vers la civilisation.
Vers le progrès, oui.
Et vers le progrès. Et c'est la même chose, le moyen est le même. Le moyen, c'est toujours l'éducation.
Ouais.
Et je crois que c'est ça qui fait la cohérence profonde de la pensée de Ferry. Elle se voit partout, elle se voit dans le domaine si nouveau chez lui, de l'éducation des filles, par exemple.
Absolument, oui. Alors j'en viens justement à ce deuxième point, peut-être de contestation ou de détestation de Ferry, qui est que sont les lois scolaires. Parce qu'aujourd'hui, ça nous semble évidemment...
aller d'elles-mêmes,
mesure résolument positive. Oui. Vous parlez d'éducation des filles, c'est le garant, l'instruction, c'est le garant de l'exercice des droits civiques, donc c'est encore une fois résolument positif, mais nous sommes à l'époque des troubles entre cléricaux et anticléricaux, et sans doute, est-ce que ces lois scolaires ont été perçues par une partie des Français comme répressives à l'égard de l'enseignement religieux ? Alors, est-ce qu'on n'a pas là encore un deuxième motif de la détestation qui frappe
Ferry ? Oui, et là aussi, d'une certaine manière, injuste, parce que ce que Ferry déteste, c'est l'enseignement étroit des écoles catholiques qui apprend aux petits Français à détester 89, à ne pas se reconnaître comme des fils de 89, mais il n'en a nullement à la religion catholique. D'autant plus
anticlérical et pas anti-religieux, donc.
Il est anticlérical, certes, mais il n'est pas du tout anti-religieux. Et d'ailleurs, il y a chez lui une vision tout à fait particulière du catholicisme français, dont il dit que c'est un catholicisme selon le suffrage universel. Ce qui veut dire, pour lui, que les catholiques français tiennent à rythmer la vie quotidienne par les grandes cérémonies de l'Église, que c'est ça le fond de leur religion, et pas du tout la croyance en l'au-delà. De la même manière, les deux jeunesses que Ferry voit antagonistes parce qu'elles ont été élevées, dit-il, à des foyers différents, les unes dans les écoles de l'État, dans les écoles de l'État et l'autre dans les écoles catholiques, ces deux jeunesses ne sont nullement séparées par la croyance à l'au-delà, qui compte très peu. Mais elles sont séparées par l'enseignement qu'elles ont reçu et par le fait que dans l'enseignement catholique, le souci de l'unité nationale, de ce que Ferry appelle la patrie morale, est secondaire. C'est cela que Ferry veut réparer. Il veut réparer cette fracture et donner à tous les petits Français la même éducation morale. Le religieux compte Très peu.
Très peu, oui. Oui. D'ailleurs, en parlant de religieux, donc, on peut le resituer aussi dans son contexte. C'est un homme plutôt modéré, on a l'impression, parce qu'il s'oppose un peu au radicalisme d'un Émile Combes,
Le petit
père Combes, qui lui est un anti-religieux,
oui, bien sûr.
Voire un fanatique.
Oui, oui, bien sûr. Non, mais Ferry est un homme modéré. Il réunit cette alliance très rare dans la politique française qui est de combiner la modération avec le courage.
Oui. Avec et d'œuvrer pour le bien commun.
Avec le bien collectif, l'idée du bien collectif, et puis un courage extraordinaire. Courage physique et courage des opinions. Ferry est quelqu'un qui ne lâche rien, qui ne faiblit jamais. En ce sens, d'ailleurs, Clémenceau et lui sont deux tempéraments dont on pouvait s'attendre à ce qu'ils s'opposent, parce qu'ils sont identiques en ce sens. Ce sont deux hommes courageux, mais avec ceci de plus chez Clémenceau, que Clémenceau est un homme de violence et de ressentiment et de revanche, ce que n'est pas Ferry.
Oui. Alors, il était ami avec Gambetta aussi, Ferry. Oui.
Oui, oui, au départ en tout cas.
Oui, oui après Rivaux, mais... mais au départ ami.
Oui, 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 au départ, oui, très ami de Gambetta. Et d'ailleurs, jaloux de Gambetta pour le rôle joué par Gambetta dans la défense nationale.
Il pense que c'est... En 71.
Voilà, il pense que Gambetta a eu le beau rôle, le rôle héroïque.
De s'envoler en ballon.
De s'envoler en ballon, et que lui était contraint à un rôle infiniment plus ingrat, qui était de distribuer aux Parisiens le mauvais pain noir, qu'on a appelé le pain à Ferry.
Et ensuite de négocier la frontière.
Et de négocier.
Ce qui est quand même, effectivement, là encore, prendre la responsabilité d'une immense humiliation.
Bien sûr, bien sûr.
Alors, si on peut placer un bémol peut-être sur l'impartialité ou le sens de la justice de Ferry, ou sur sa façon d'œuvrer pour le bien commun, c'est peut-être dans ses lois scolaires. Il n'œuvre pas pour la religion, il n'œuvre pas non plus pour cette espèce de religion de l'être suprême que voulait Robespierre, mais il œuvre tout de même pour une forme de religion, si l'on peut dire, de la République, en tant que telle.
C'est vrai.
Et c'est un peu étrange quand même, non ?
C'est la limite à son libéralisme.
Oui.
D'une certaine manière, toute pensée de l'unité de la nation conteste la pensée libérale. Parce que celui qui est attaché avant tout à l'unité de la nation est tout prêt, par exemple, d'accepter des mesures de salut public et de prendre des mesures qui sont restrictives de la liberté individuelle. Il y a donc une sorte de contradiction philosophique entre l'idée de nation et l'idée de nation une et indivisible et l'idée de liberté. Or, Ferry est un libéral, mais un libéral qui fait quelques accrocs. À son libéralisme. Le premier, c'est l'obligation scolaire. Parce qu'un penseur libéral, un penseur des Lumières, comme Condorcet, attaché comme Ferry à l'éducation du peuple, recule devant l'obligation. Pour Condorcet, c'est la demande sociale qui fera l'éducation du peuple dans son entier. Mais cette demande sociale, il faut attendre qu'elle monte des profondeurs. De la vie collective et de la société civile, et il ne faut pas l'imposer, et Ferry l'impose. Alors pourquoi est-ce que Ferry consent ce type d'accro à la pensée libérale? Je crois que c'est pour une raison très, très simple, c'est que Ferry, c'est que la scène primitive dans la vie de Ferry, c'est la déception de 1848, c'est la désillusion. Quand arrive à Strasbourg la nouvelle de la révolution de février, Ferry est un jeune garçon de 16 ans. Et avec son frère Charles, 14 ans, ils entreprennent de pavoiser de tricolore la maison familiale. C'est l'enthousiasme, c'est un instant de griserie.
Réminiscence de 1789.
Politique et d'éducation politique des deux garçons. C'est l'éveil de ces deux garçons à la vie politique. Et puis ça dure, comme vous le savez, l'espace d'un printemps, puisque dès juin, c'est l'émeute dans les rues et c'est la vision dans les lointains d'un sauveur. Auquel la nation va se... Alors, pour Ferry, c'est ça le drame français.
Le sauveur sera potentiellement Louis-Napoléon Bonaparte.
Ben voilà. Et le drame français, c'est une politique très répétitive. C'est-à-dire que les Français, dans un coup d'enthousiasme, sont capables de proclamer les républiques.
Oui.
Après
et de
quoi,
les abattre.
Après quoi vient la guerre des rues, vient l'émeute, vient la répression, et puis... les Français sont trop heureux de déposer leur liberté dans les mains d'un sauveur, d'un César. Et c'est cette détestation du bonapartisme et du césarisme qui fait le fond de la pensée de Ferry.
Alors, il a dû être servi, parce que le XIXe siècle est un siècle qui va de révolution en, en césarisme.
Oui. Donc, c'est, absolument, le 19e.
Et même sa Troisième République, enfin, l'ère de cette espèce de transition des années 70-80 est une période d'instabilité.
Et puis avec bientôt la menace d'un nouveau César dans la personne de Boulanger. D'ailleurs, oui. Danger que Ferry voit tout de suite, épingle tout de suite comme un danger majeur. Mais c'est vrai que Ferry a dans la tête, et ça explique les accros à son libéralisme, Ferry a dans la tête cette sorte de malédiction de la vie politique française qui débute dans l'aube radieuse de la liberté pour s'achever, pour passer par la terreur et s'achever en despotisme.
Oui.
Et donc,
on a là tout le paradigme de la Révolution française,
c'est
finalement.
Vrai.
Et on a l'impression, j'explique pour les auditeurs de Canal Académie, donc la Révolution, la terreur 1793, et puis le césarisme, évidemment, l'arrivée du consulat et de l'Empire. On a l'impression que toute la vie politique de Ferry, et peut-être même sa personnalité, est marquée par l'empreinte de la Révolution française, la première. Comment l'expliquer alors cela?
Écoutez, simplement, parce que tout ce monde joue et rejoue la Révolution française pendant tout le XIXe siècle. Un des mérites remarquables de Ferry, c'est de mettre un terme à cette répétition maléfique, puisque ce qu'il a en tête, qui est pérenniser la République, c'est son seul projet, finalement, faire durer la République. Mais il va y réussir. Il va y réussir en particulier en découplant la République de la terreur. Et en prenant dans la Révolution la séquence 1789-1793 et en ne prenant qu'elle.
Dans quelle section est-ce que vous le classeriez, Ferry? Il n'est pas jacobin, il est quoi? Il est girondin?
Il est plutôt un girondin. Oui. Alors que Clémenceau, on peut d'ailleurs, je crois qu'on pourrait très bien rabattre l'opposition des deux hommes là-dessus, sur la manière de concevoir et de rejouer de façon imaginaire la Révolution. C'est que Clémenceau est un bleu de Vendée, c'est un jacobin qu'emblématise la célèbre formule qui est un peu une muleta d'assemblée agitée sous le nez de la droite, quand Clémenceau dit « la Révolution est un bloc », et un bloc dont on ne peut rien distraire, etc. Ferry est au contraire un homme pour qui la Révolution n'est pas un bloc et pour qui la Révolution s'est s'aborder elle-même dans la journée du 2 juin 1793 quand la Convention, sous la pression de la rue, a accepté d'expulser de son sein les députés girondins. Donc Ferry est un homme de...
D'inventaire. Il veut le droit d'inventaire.
Oui, absolument. Il veut le droit d'inventaire.
D'accord. Entendu. Alors, votre livre, je le lisais, donc fait... Qu'on le veuille ou non, il fait écho en fait à notre société contemporaine. Bah, c'est peut-être un peu fait exprès d'ailleurs, mais
pas forcément. Mais on est ramené par beaucoup d'associations d'idées, bien sûr.
Et alors, notamment donc à la volonté de Jules Ferry de rebâtir ce qu'il appelle cette France comme patrie morale.
Oui.
Aujourd'hui, nous avons une grave crise scolaire. On le voit avec la perte de l'acquisition, voire de la transmission des savoirs. On le voit avec le discrédit des diplômes de fin de cycle. Bon, le bac, etc. Le brevet des collèges ne valent plus grand-chose. La démobilisation des personnels pédagogiques, l'irruption du communautarisme au sein de ce qu'on appelle les territoires perdus de la République, hein, pour reprendre le nom d'un livre célèbre. Alors, nous ne sommes plus dans ce modèle de Jules Ferry, mais que pourrait nous apporter aujourd'hui le modèle d'enseignement forgé par Ferry jadis? Est-ce qu'il peut encore servir pour aujourd'hui?
C'est très compliqué comme question, parce qu'on est évidemment tenté de dire tout de suite, attendez, l'invocation de Ferry aujourd'hui est une invocation rhétorique. Elle sert beaucoup, elle a beaucoup servi pendant le règne, si j'ose dire, de ce malheureux Luc Ferry, que l'homonymie, évidemment, destinait à...
À tenter d'endosser un costume un peu large.
À entendre pendant toute sa carrière à l'éducation nationale, s'il était véritablement un Ferry bis, etc. Tout ça est un peu absurde, parce que nous ne sommes plus dans le monde de Ferry. La France que Ferry veut refaire est une France d'abord qui est presque entièrement rurale, encore. Complètement rural. C'est une France dans laquelle l'autorité n'est pas en crise et dans laquelle les normes scolaires sont soutenues par la société tout entière. Les normes scolaires sont soutenues par les familles, ce qui n'est plus du tout le cas.
Et le professeur est une figure éminente.
Et le professeur est une figure d'autorité éminente. Et puis c'est dans les villages français, c'est la... l'instituteur, même la personne chétive de l'instituteur de village, incarne le savoir comme le médecin et comme le prêtre, dans une société qui est encore très peu, sinon alphabétisée, elle est alphabétisée encore, déjà largement, mais enfin qui est très peu éduquée. Donc, nous ne sommes plus du tout dans le même cas de figure, et par ailleurs...
Enfin, en creux, vous nous laissez entendre qu'il faudrait, par exemple, redresser la figure du professeur.
Ben, si c'était,
si on voulait, si ça peut être un des éléments de la réponse, c'est une crise très grave.
Oui, oui, mais si c'était effectivement possible, c'est ce qu'on souhaiterait. On souhaiterait beaucoup que réapparaisse aussi l'autorité du livre.
Oui.
Que les élèves s'astreignent à apprendre des textes par cœur et à se les mettre en bouche, à se les approprier. Ouais. Il y a quelque chose que nous avons aussi totalement perdu et qui est l'ingrédient indispensable de l'école selon Ferry, c'est la lenteur, c'est la patience et la longueur du temps. Aujourd'hui, le savoir se prélève sur Internet, il se prélève dans l'immédiateté.
Il se picore même, oui.
Oui, il se pique, oui. Il se prélève dans l'immédiateté, dans l'utilité immédiate. On prend ce dont on a besoin dans le court terme. Autrement dit, on ne s'approprie rien. On ne se met rien en mémoire, on ne fait pas de l'enseignement que l'on reçoit quelque chose qui est un ingrédient de son existence personnelle. Ça n'existe plus. Et ça, que faire? Que faire? Peut-être faudrait-il pouvoir imaginer des professeurs capables de répondre précisément aux réquisites de cet enseignement sur Internet, qui soient plus familiers de cet enseignement et qui expliquent comment il est possible de l'intégrer à un savoir plus conscient et plus élaboré. Mais je ne sais pas où les trouver. Il faudrait trouver les formateurs. Il faudrait former ces formateurs.
Former les formateurs, oui.
Et ça, c'est... Non, c'est un...
Réapprendre aussi peut-être le fait que le savoir est une chance et pas une épreuve ou une corvée. Parce que je pense que quand un petit enfant de l'époque de Jules Ferry parvient à aller à l'école, d'abord c'est un sacrifice pour ses parents.
Bien sûr.
Et lui conçoit qu'il monte progressivement dans l'échelle sociale, c'est-à-dire le paysan devient fonctionnaire, le fonctionnaire devient instituteur, l'instituteur devient député. Enfin bref, c'est... caricature, mais
non, c'est... Non, c'est pas... Vous caricaturez pas, c'est le modèle de l'ascenseur social. Et du reste, tous les pédagogues de l'enseignement républicain à l'époque donnent à l'enfant qui a suivi les écoles, à son tour, un rôle de formateur de ses parents. Il y a un texte de Buisson célèbre qui dit « Va, petit, comment dire, je ne sais pas, petit témoin de la société moderne, retourne vers tes parents, montre-leur le livre où tu as appris à lire, etc. » C'est-à-dire que l'enfant lui-même doit entraîner.
Il doit rendre aussi, oui.
Oui, il doit rendre, il doit restituer ce qu'on lui a donné, mais même près de ses parents, c'est-à-dire qu'il doit être le moteur de cette éducation républicaine collective.
Ouais. Alors, vous avez également beaucoup travaillé sur l'identité. Ferry voulait, vous l'écrivez dans ce livre, donc Jules Ferry, La liberté et la tradition, donc, qui est paru chez Gallimard dans la collection L'esprit de la cité. Vous écrivez qu'il voulait mettre tous les enfants de France, quelles que soient leurs conditions et leurs origines, sur les mêmes bancs de l'école. Alors, dans un monde qui est le nôtre, à nouveau, peut-être peut-on tirer une leçon de cette volonté de Ferry. Dans un monde où, finalement, le modèle d'assimilation a échoué, où le modèle d'intégration n'a pas été le modèle d'intégration à l'anglaise, hein, donc qui consiste à accueillir des populations et à les laisser vivre selon leurs lois sur un territoire donné, n'a pas été non plus assumé. Donc on en arrive à une espèce de flou, à des débats sur l'identité nationale, comme on a vu un peu, qui tombe dans la caricature médiatique. Aujourd'hui, justement, est-ce qu'on n'a pas encore une leçon à tirer de Jules Ferry sur cette façon de vouloir tirer les gens de leurs origines et leur faire accepter le pacte républicain? Et c'est un peu, ça rejoint un peu ce que vous aviez écrit dans votre propre ouvrage Composition française, où vous évoquez vos origines bretonnes et votre régionalisme breton finalement, et en même temps votre adhésion à des valeurs françaises,
au républicanisme français. Oui, parce que précisément ce débat sur l'identité nationale, je pense que je n'ai jamais pensé, contrairement à beaucoup de mes amis et de mes collègues, qu'il ait été inintéressant. Je crois qu'il est au contraire très intéressant de se demander quel est le sentiment mystérieux qui fait que nous puissions nous dire « nous ». Oui. Nous, Français, nous sommes ceci ou cela. Il y a quand même quelque chose là qui est tout à fait passionnant, je trouve, à creuser. Tout le problème, c'est que le débat a été faussé de deux manières. D'abord, il a été faussé par la contracture jacobine de la politique française, puisque le débat consistait à voyager des préfectures en sous-préfecture, et donc du haut en bas, selon le modèle jacobin bien, bien connu. Premier point. Et deuxième point, deuxième difficulté de ce débat, c'est que le but souvent exprimé était de parvenir à une sorte d'essentialisation de l'identité française. Il y avait une phrase de Nicolas Sarkozy qui disait, c'était drôle d'ailleurs, qui disait « On va leur montrer ce que c'est que l'identité française » avec cette sorte d'injonction un peu grondeuse. On va leur montrer, on va leur apprendre à vivre un peu et on va leur montrer ce que c'est. Or, je crois que quand on pose ainsi le problème de l'identité, on rate complètement ce qu'est une identité, parce qu'une identité, c'est composé, si j'ose réemployer ce terme, c'est composé d'appartenances diverses. Et regardez, ça peut se voir même dans la simple réflexion sur ma carte d'identité. Que dit sur moi ma carte d'identité ? Très peu de choses, mais malgré tout. J'appartiens au sexe féminin. J'appartiens aux gens qui sont nés dans le département du Finistère. J'appartiens à la catégorie des personnes qui culminent modestement à 1m60, etc., etc. Bref. Si peu que dise sur moi la carte d'identité, elle décline un certain nombre d'appartenances. Si nous, nous devons dire quelle est notre identité, nous allons être obligés de passer par de multiples appartenances et donc par des récits narratifs très divers. Or, je crois que la difficulté, c'est de ne pas voir que les appartenances sont tout à la fois l'envers de notre liberté, d'une certaine manière, parce que appartenir à une famille, à un terroir, à, que sais-je, à un parti politique, à une religion, etc., ce sont autant de limites à la liberté. Donc, on peut faire des appartenances l'envers des libertés, et en même temps, il faut bien voir que les appartenances sont le socle de nos libertés, que nous ne construisons jamais notre liberté à partir de rien. Nous partons de situations qui sont précisément nos appartenances. Alors comment se débrouiller avec ce problème, qui est un vrai problème ? C'est au fond de laisser toujours sa chance à la désaffiliation. Oui, j'appartiens à tel terroir, tel parti politique, telle opinion dominante ou dominée, peu importe, mais je n'en suis pas prisonnière.
Esclave,
oui. Je n'en suis pas esclave. À tout moment, je peux les reconsidérer, ce qui d'ailleurs montre à quel point, du coup, la culture, l'éducation, la connaissance d'autres identités est fondamentale pour prendre, par rapport à ses appartenances, la distance nécessaire. Donc tout ça est un ensemble incroyablement complexe, et je crois que l'échec de ce grand débat national a été de le simplifier à outrance.
Oui. Et peut-être de considérer que l'espèce de crispation identitaire pouvait devenir une solution, parce que on a finalement laissé des gens le mot n'est pas exagéré, je pense, se crisper sur leur identité,
oui,
non ?
Oui, d'une part, et d'autre part, il faut bien voir aussi que en venir à une définition essentialisée de l'identité est un procédé d'exclusion, oui. Et forcément, à terme, un procédé d'exclusion.
Oui, donc de favorisation du communautarisme.
Par ricochet,
oui, oui.
Parce que la population exclue ou discriminée, oui, ou disgraciée
s'autodésigne par ce qu'on
voilà,
lui représente.
Et se tient chaud,
oui,
dans un univers que l'on a rendu pour elle glaçant souvent.
Oui, oui, oui. Alors cela dit, est-ce qu'on pourrait ne pourrait-on reprendre cette phrase qui n'est pas de Ferry mais de son ami ou rival ensuite, Gambetta, la paraphraser en disant le communautarisme aujourd'hui voilà l'ennemi. Alors lui disait le cléricalisme voilà l'ennemi. Est-ce que le communautarisme n'est pas l'ennemi, justement, de cette France patrimorale qu'aurait voulu Jules Ferry ?
Vous posez la question pour aujourd'hui ?
Oui.
Moi, j'ai tendance à penser que très souvent, le communautarisme est un tigre de papier qui est brandi pour mettre en valeur une identité très, très raide, très rigide et très, très figée. Je n'ai pas une conscience aiguë du danger du communautarisme, ou plus exactement, si, je vois bien le danger, mais je pense que la crispation sur l'identité républicaine ou brandir le modèle républicain est une manière d'encourager le communautarisme. Et je ne suis pas sûre que certains de ces gestes de crispation identitaire ne fassent pas beaucoup de tort à la capacité de réconcilier les communautés.
Oui. Alors comment reconstruire cette patrie morale, alors, si on voulait aujourd'hui? Encore une fois, hein, l'idée c'est de trouver l'héritage de Jules Ferry. Alors je vous pose des questions un peu...
Oui, vous me posez des questions océaniques et auxquelles je suis bien incapable de répondre. Mais malgré tout, il me semble que la pratique de la tolérance, le regard éclairé sur... l'autre communauté, que tout ça ne ferait pas de mal dans le débat. Par exemple, ce qui plombe aussi le débat, c'est l'idée que la démocratie n'est pas compatible avec l'islam. Or, si effectivement on pose d'emblée que l'islam et la démocratie sont totalement incompatibles, c'est même pas la peine d'essayer de commencer à parler. Voilà. Alors, est-ce que c'est vrai? Il faudrait aussi se souvenir du temps qu'a mis l'Église catholique pour accepter la République et la démocratie. L'Église catholique est un système en lui-même hiérarchique qui a eu beaucoup de mal, qui a mis des siècles à accepter la démocratie. Et au fond, il y a très peu de temps que la droite catholique française est devenue républicaine. Elle l'est devenue.
Avec cette toute petite nuance, peut-être, oui. Mona Ouzouf, donc, qui venait d'écrire Jules Ferry, La liberté et la tradition chez Gallimard, qu'au sein du corpus doctrinal du christianisme, il y a cette séparation intrinsèque
entre César et Dieu, entre le temporel et le spirituel, c'est vrai.
Qui n'est pas vrai dans l'islam,
qui est profondément théocratique.
Oui.
Non, c'est vrai que c'est sûrement plus difficile. Est-ce que c'est impossible? C'est la grande question que nous avons à résoudre. Impossible, je ne sais pas. Les populations immigrées en France ont quand même tendance à se rapprocher dans bien des domaines, y compris le domaine de la démographie qui est si important, le domaine des naissances, etc., a tendance à se rapprocher très lentement, certes, mais du modèle de la société.
De référence, oui,
voilà.
Oui,
alors, est-ce que c'est... Je n'en sais rien, je n'ai pas de réponse du tout à cette question, mais je la crois ouverte, en tout cas. Et je crois que la fermer, c'est la chance de ne jamais trouver de solution.
Laissons cela aux auditeurs de Canal Académie qui vont pouvoir méditer sur vos propos. Alors, malheureusement, le temps nous presse. J'avais une dernière question bien journalistique pour vous. Est-ce que Manuel Valls, donc, qui se réclame de Clémenceau, le Premier ministre donc, qui se réclame de Clémenceau, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, Jules Ferry a un héritier dans la classe politique, disons, des 30 ou 40 dernières années à gauche?
Oui, il en a eu un qui est Mendès France.
Mendès France,
et
ça nous met loin quand même. Hein.
Comment?
Ça nous met loin.
Oui, ça nous met loin, mais c'est quand même très important, et en particulier parce qu'une des choses très peu connues sur Ferry, un des aspects, un des volets de son action, qui d'ailleurs est un volet qui n'a pas réussi, mais qui est la critique des institutions républicaines, et l'effort pour aller vers un modèle républicain moins légicentriste, qui fasse un peu plus de place à l'exécutif et qui ne s'enferme pas dans cette nasse qui s'est tout de suite fermée sur la République commençante après la dissolution catastrophique, calamiteuse de Mac Mahon. Après cela, tous les présidents de la République ont déclaré qu'ils n'useraient pas de leur droit de dissolution, ce qui a condamné la Troisième République à une sorte d'infirmité. Aucune législature, il n'y a jamais eu de contrat de législature qui ait pu durer le temps d'une législature. Et du reste, Ferry a accompli cette œuvre extraordinaire, qui est l'œuvre sur laquelle reposent encore aujourd'hui nos libertés publiques, toutes. Liberté de la presse, liberté de réunion, liberté syndicale, etc. etc. Ferry a réussi tout cela, c'est quand même quelque chose qu'il faut noter, en six petites années de pouvoir, et très intermittentes. Il n'a jamais été au pouvoir pendant ces six ans, mais constamment renversé, réintégré, etc. Donc Ferry a très bien vu ce drame de la politique française, et en ce sens, oui, il fait beaucoup. Les quelques textes qu'il a laissés là-dessus font beaucoup penser à Mendès France.
Ce sera le mot de la fin. Donc depuis Il faudrait que quelqu'un à gauche tente d'endosser à nouveau le costume, qui est large effectivement, mais qui vaut la peine peut-être. Donc, chers auditeurs, je vous rappelle que je recevais Mona Ozouf, donc lauréate du Grand Prix Gobert de l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre, et auteur d'un Jules Ferry, La liberté et la tradition, collection L'Esprit de la cité chez Gallimard, que je vous recommande évidemment chaudement pour découvrir ce grand personnage. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission sur les ondes donc de Canal Academy. Au revoir. Thank you.